Bonsoir tout le monde. On est-tu... on est plugué, comme on dit? Correct? Toujours un plaisir de venir vous voir et surtout de commencer l'année avec vous. Puis, comme vous voyez dans le titre, je ne veux pas faire de moi une Jojo Savard ou ceux qui ont connu cet astrologue ou une Madame Minou qui a l'air plus de dormir que de présider. Mais ce qui est rassurant, ce sont des prédictions qui vont être tirées de la parole de Dieu. 5 prédictions pour 2012. Et on va tourner justement dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, si vous avez votre Bible. 1 Pierre, chapitre 2. Et le verset 10. On ira le voir tantôt, 1 Pierre 2, 10. Ou plutôt, ce sera le verset 11. 1 Pierre 2, 11. Mais avant de tomber dans nos prédictions pour 2012, j'ai entendu récemment le prédicateur Charles Swindoll proposer quelques façons. Regardez si ça fonctionne, ça. Avant de tomber dans nos prédictions, Charles Swindoll, à un moment donné, il voit de quelques suggestions comment s'assurer d'avoir une année misérable. Tu sais, comment scraper ton année 2012? C'est peut-être bon de voir que c'est quoi les suggestions de Charles Swindoll. Première façon de scraper ton année, excusez-moi mon flanc anglais, là, monsieur. Inquiète-toi beaucoup en 2012. Si tu veux avoir une année misérable, inquiète-toi beaucoup en 2012. Laisse-toi influencer par les mauvaises nouvelles du jour. Ben, sans canceller ton nouvelliste, tu peux garder ton nouvelliste quand même. Là. Mais c'est un fait que demain matin, on regarde ou on lit les nouvelles quotidiennement, les crises mondiales, les drames, les meurtres, les compagnies qui ferment à gauche et à droite. Tu sais, chaque jour, dans le fond, en écoutant les nouvelles ou en lisant les nouvelles, on peut être déprimé et inquiet assez rapidement. Donc, en 2012, si tu veux avoir une année misérable, assure-toi de te laisser influencer par les mauvaises nouvelles du jour. Ou encore, si tu veux avoir une année misérable 2012 puis t'inquiéter, ramène à ta mémoire les échecs de la dernière année, par exemple, les déceptions de la dernière année. Puis même, on dirait, l'amertume, peut-être découlant de ces déceptions-là, qui est peut-être dans ton cœur ce soir aussi. Alors, si tu veux, puis les regrets aussi ou l'amertume, c'est du fuel, c'est du gaz, ça, pour l'inquiétude, ça. Inquiète-toi par rapport à la sécurité de ton emploi en 2012. Inquiète-toi par rapport au fait de vieillir. Puis, vous savez, je ne suis pas prophète, mais je peux tout vous annoncer ce soir que vous allez tous vieillir en 2012. D'ailleurs, vous allez dire, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire tomber en bas de votre chaise. Ça ne se peut pas. C'est impossible, mais je vais avoir 50 ans au mois de janvier. Je sais que vous me donnez 36, 37, là, mais... je vais avoir 50 ans le 27 janvier. Pas oublié de m'acheter des cadeaux, mais quand même... Mais tout ça pour dire, on vieillit tous, puis le fait de vieillir, c'est une source d'inquiétude. Tu sais, souvent, là, on y réfléchit, puis comme chrétien même, on vieillit, puis ça nous apporte notre lot d'inquiétude, surtout par rapport à des problèmes de santé qui se développent en vieillissant aussi. C'est intéressant, Charles Swindoll a dit ceci par rapport aux signes de vieillesse. Et je le cite, là. Il dit, tu sais que tu vieillis quand tes rêves ne sont que des reprises. Tu sais, quand tes rêves, c'est des vieilles choses, c'est des reprises, là, ça veut dire que tu es rendu vieux. Là, tu sais que tu vieillis quand tes rêves, donc, ne sont que des reprises, et aussi quand tu t'assois dans une chaise berçante et tu n'es pas capable de la faire bercer, là, ça ne va pas bien. Tu sais que tu vieillis quand la vieille dame que t'aide à traverser la rue, c'est ta femme. T'sais. Tu sais que tu vieillis quand tout fait mal, puis ce qui fait pas mal, ça marche plus. Et tu sais que tu vieillis quand tu plantes tes dents dans un bon steak puis les dents restent là. Là tu... Fin de la citation de Charles Swindoll. Mais il en demeure pour moi qu'effectivement, si on veut scraper notre année 2012, ben inquiétons-nous au bout. Là, l'autre chose pour nous rendre notre année misérable, deuxième point, porte ton attention à devenir riche. Focus en 2012 sur cette soif de richesse. Vous savez, dernièrement, je suis allé à la vaisselle chez nous. C'est pas parce que je suis un mari exemplaire, parce que notre lave-vaisselle est brisée. Quand même, soyons calmes. Puis, c'était un mercredi soir, puis m'emmener à 6h, 6h15, je viens pour embarquer dans mon auto. Je ne sais pas pourquoi, 430 000 km, je ne sais pas pourquoi ça brise en temps. Mais... Fait que là, mon auto ne partait pas, c'était un mercredi soir. Je rentre dedans, je continue à essuyer la vaisselle, puis... Là, à un moment donné, le mercredi soir, la TV jouait dans le salon, je ne sais pas quoi. Puis à 7h, c'est la poule aux œufs d'or. Une émission de loterie, je ne sais pas quoi. Mais ça jouait dans le salon. Puis là, tu sais, t'essuies ton ta vaisselle, ton char ne part pas. Puis là, tu entends la madame, un gros lot! Ça me semble que. Tu sais, même là, me semble, j'ai eu un flash d'envie. J'aurais aimé ça gagner quelque chose rapidement ce soir-là pour réparer ce char-là, toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sans dire le souhaiter, mais tu sais, qui refuserait de gagner un montant, tu sais, puis d'avoir de l'argent rapidement. Tu sais. Mais il y en demeure pour moi que cette tentation de devenir riche, hein, c'est pernicieux, on le voit dans 1 Timothée, les exhortations. Mais si on veut avoir une année misérable en 2012, focussons à devenir plus riche, à faire plus d'argent. Ça devient notre obsession, ça. Fais-toi séduire par ces émissions, ces livres, ces séminaires qui te font croire que tu peux devenir riche en faisant peu de choses. Fais-toi avoir par ces vendeurs de type pyramidal qui, au bout du compte, seront les seuls à faire de l'argent et ceux à tes dépens. Puis, j'ai même connu un jeune croyant qui s'est laissé séduire par cette facilité, possibilité de faire de l'argent facilement et rapidement. Puis, ça l'a éloigné du Seigneur. Ça. Puis, ça l'a même éloigné de ministère, puisque c'est quelqu'un qui s'en allait quasiment dans le ministère de prédication. Mais tellement focusé à faire de l'argent rapidement qu'il s'est laissé séduire par ça. Alors, personne n'est exempt de ça, les séductions de la richesse. Mais ça peut venir rendre notre année misérable si on focus là-dessus. Donc, l'inquiétude, le matérialisme, on s'entend-tu qu'on vit, on vit dans le meilleur pays au monde, mais on vit dans le pire pays du matérialisme aussi. S'il y a quelqu'un, s'il y a un croyant qui peut être en danger d'être séduit par le matérialisme, c'est bien les Québécois. C'est bien nous autres qui vivons dans une telle abondance, avec le crédit facile en plus. Et Charles Swindoll de continuer et de dire une autre façon d'avoir une année misérable, c'est de se comparer aux autres. Et de porter envie aux autres. Et c'est pour ça, quand on regarde ces points-là, une solution à tout ça, puis on avait commencé à avoir une sorte de mini-série ensemble là-dessus, j'avais mis une parenthèse quand même pour traiter de d'autres sujets, mais la clé de tout ça, c'est le contentement. Et c'est une prière qu'on doit faire, en début d'année, apprends-moi à être content cette année, Seigneur. Apprends-moi à ne pas m'inquiéter. Apprends-moi à me contenter de peu. Et apprends-moi à ne pas envier les autres. Apprends-moi à être reconnaissant de ce que j'ai. Hein? Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tout ce qui est au-delà de ça, c'est du surplus, une bénédiction que d'avoir ça. Donc, ça, c'est pour un petit peu les façons de scraper notre année 2012. Maintenant, on va voir ensemble comment rester réaliste tout au long de l'année. Puis, je vous avertis d'avance, ce n'est pas une liste pour savoir comment connaître une année 2012 fantastique. Là. Mais c'est une liste pour rester réaliste, et ce, à partir du texte que je vous propose dans Pierre, chapitre 2, ce soir. Évidemment, c'est toujours bon lorsqu'on ouvre les pages d'une épître de savoir à qui ça s'adresse. Et Pierre, lorsqu'on recule au chapitre 1, verset 1, on découvre à qui s'adresse cette lettre-là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Vous savez, nous, on est confortablement assis ce soir à Cap-de-la-Madeleine. On retourne tantôt dans nos loyers, dans nos maisons. Mais ces croyants-là... À cause de leur foi, on dit non seulement. T'sais, imaginez, là, supposons qu'on doit quitter notre foyer à cause de la persécution. Et ça se fait encore dans d'autres pays aujourd'hui, en 2012, mais Ces gens-là, ces chrétiens-là, à qui cette lettre-là s'adresse, ce sont des croyants qui ont vécu une persécution terrible. Puis là, ils sont obligés de quitter leur chez-soi et même leur ville et même leur pays dans certaines situations. Imaginez, c'est quand même difficile à vivre, ça. Et c'est à ces croyants-là que Pierre va leur dire au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte. » Pierre a une exhortation à leur dire à ces croyants-là qui vivent de telles persécutions, qui sont des étrangers. Puis c'est intéressant parce que il va leur dire au verset 11, « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Les autres savaient c'était quoi d'être étrangers parce qu'ils viennent de se faire de quitter leur pays ou leur ville. Mais on est tous comme croyants des étrangers sur terre. On est les vrais extraterrestres, nous autres. On est vraiment des gens qui n'appartiennent plus à cette sphère. On est dans le royaume de Dieu. Dès maintenant et à jamais, lorsqu'on est croyant, sauvé par grâce en Jésus-Christ. J'espère que c'est le cas de tout le monde ce soir. Et il leur dit ceci, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et verset 12, regardez, il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, la première prédiction pour 2012, puis je veux que, comme croyants, et ce sont des prédictions qui s'adressent aux croyants, qu'on mette le « je » parce que ça nous implique tous comme croyants. Première prédiction à partir de ces versets-là, en 2012, « Je serai observé par un monde incroyant en 2012. »« Je serai observé par un monde incroyant en 2012. » Encore une fois, par rapport à ma fameuse auto de 430 000 km, la semaine avant que j'aie cette panne à la maison, j'avais encore des réparations à faire dessus. Puis là, je suis allé au garage, puis là, ben, j'avais dit au garagiste, là, j'avais vraiment besoin de l'auto à telle heure. Puis finalement, quand je suis retourné à l'heure précise, non seulement l'auto n'était pas prête, mais il avait brisé d'autres choses sur le char. Ça. Puis vous savez qu'une auto vieille comme ça, moi, le problème, c'est que la vitre se baisse, mais ça ne monte plus. C'est en plus comme problème. L'été, c'est pas grave. Mais l'hiver, au mois de janvier, ça ne tentait pas nécessairement de promener avec la vitre baissée. Fait qu'à chaque fois que je vais au garage, quand tu es rendu là, tu devrais dire, je sais que vous allez dire, change de char, mais c'est bien. T'avais. Mais il faut que j'avertisse le garagiste, là. Baisse pas la vitre, puis qu'elle ne s'en monte plus. Fait que là, à un moment donné, non seulement je retourne au garage, non seulement le char n'est pas prêt à l'heure, non seulement ils me disent, mais là, il y a d'autres choses qui s'est brisées pendant qu'on a réparé. Là, je vois le gars arriver avec le char, puis la vitre baissée. Ben, tu sais quand ça va bien. Fait que là, à ma grande honte, j'ai quand même, en bon Québécois, pété une coche. Là. Mais, puis c'était un jeune homme qui était dans le char avec la vitre baissée, puis je voyais tout ça, j'étais vraiment sans connaissance. Ça, c'était, mais une semaine après, ça a été ma soirée, justement, où j'avais ma panne, puis à la maison pendant que je faisais la vaisselle. Et le lendemain matin, quand je call le towing, qui je vois pas dans le towing? Le jeune homme que j'avais en guirlandais, comme on dit. Tu sais, le Seigneur a le don de t'humilier un peu, de dire, regarde, tu sais, là, j'avais besoin de lui pas à peu près ce matin-là. Mais tout ça pour dire que ma mauvaise réaction envers ce jeune homme-là, imaginez si j'avais eu à lui présenter l'évangile après. Tu sais, notre témoignage. Et en 2012, soyons conscients que je serai, comme croyant, observé par un monde incroyant. On est des citoyens des cieux, le texte nous dit, on vit temporairement sur une terre étrangère, pendant ce temps-là, on doit être de bons citoyens terrestres. Pour les inconvertis, la terre, c'est un terrain de jeu, ils veulent avoir du fun là-dessus, mais pour nous, la terre, c'est un champ de bataille. Mais pas un champ de bataille envers les gens, mais un champ de bataille. Où se passe la bataille? Regardez le verset 11. On est invité à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est avec nous-mêmes qu'on est, on a des problèmes aussi. Il y a une guerre spirituelle. Et je pense que ça vaut la peine de tourner dans Matthieu 5. Gardez votre doigt dans un pierre. Matthieu 5, verset 14. C'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus-Christ qui va dire ceci, c'est dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 14. Le Seigneur va dire ceci. Vous êtes la lumière du monde. C'est intéressant, c'est pas une option, ça. C'est pas « ça te tente-tu d'être une lumière si tu es chrétien, tu n'es pas obligé ». Non, non. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Reste à savoir, je brille-tu ou je ne brille pas. Mais nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, votre bon témoignage. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puis quand on retourne dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, j'aime bien aussi la version d'Arby, je vais la lire comme ça. Ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation. Et là, regardez la fin, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. J'aime bien la version littérale. On est observé. Je peux en témoigner à mon bureau, au travail. Parfois, les collègues vont me tester, vont faire des situations. Ils savent que je suis chrétien. Mais on est observé. On est observé. Une fois que les gens savent que nous sommes chrétiens, ça commence. Ils commencent à nous observer. J'espère que les gens savent que tu es chrétien. À l'école, au travail, où tu vas. J'espère que les gens autour savent que tu es chrétien. Puis une fois qu'on est identifié comme chrétien, c'est sûr qu'on devient des objets d'observation. Puis nos faits et gestes, sans dire qu'on est, ne faut pas devenir paranoïaque, là, mais nos faits et gestes sont quand même remarqués. Nos réactions sont remarquées. Chaque croyant est une publicité sur le christianisme. Puis c'est une vieille phrase qu'on entend depuis qu'on est jeune chrétien. Pour la plupart des jeunes, nous serons la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire. Puis je pourrais dire pour 99% des jeunes, nous serons la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire. Notre vie. On a toute une responsabilité. Il ne faut pas dire qu'on est appelé des ambassadeurs de Christ. Vous savez, dans le monde diplomatique, un ambassadeur qui fait honte à son pays, il ne reste pas longtemps à Dieu. Là, on doit être irréprochable. On représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On est sauvé, on est transformé. Si je fais comme le monde autour de moi, si je vais d'un bord comme les autres vont d'un bord, si je fais comme les autres, pas grande différence dans le témoignage. Nous serons pour la plupart, pour la grande majorité des gens, la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire. Faisons attention à notre témoignage. Distinguons-nous des non-croyants. Nos voisins nous observent. Hein? Ça fait des années que le dimanche matin, tu pars à telle heure avec une Bible au-dessus du bras. Ou le mercredi soir, ou le dimanche soir. Ils ne te le disent pas, mais ils t'observent. Il remarque quelque chose de régulier. Les gens au travail nous observent, les gens à l'école nous observent, les gens qui font du sport avec nous nous observent aussi dans nos loisirs. On est observé par un monde incroyant et le but est de vivre une vie exemplaire. C'est un appel ce soir du Seigneur à ce qu'on vive une vie exemplaire. Que nous ayons une bonne conduite. Rappelons-nous le verset 12. « Afin que là même où vous calomniez comme si vous étiez des malfaiteurs, il rit de vous, c'est sûr qu'on va se faire rire de nous autres comme chrétiens. On va se faire moquer de nous autres. Mais gardez le but. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Notre but, c'est qu'il soit sauvé. Et qu'on aura contribué par notre témoignage à ce qu'ils viennent au Seigneur. Et non pas à ce qu'on les aura empêchés de venir au Seigneur à cause d'un mauvais témoignage. Platon avait entendu parler d'un homme qui le calomniait. Et sa réponse est intéressante. Il dit, « Je vais vivre d'une façon telle que personne ne va croire ce qu'il dit. » Platon avait entendu parler d'un homme qui le calomniait. Sa réponse fut celle-ci, « Je vais vivre d'une façon telle que personne ne va croire ce qu'il dit. » On n'a pas à convaincre les gens par nos paroles. C'est sûr qu'il faut parler, à un moment donné, de l'Évangile. Mais si on vit comme on doit vivre, ils vont remarquer, ils vont voir qu'il y a une différence. Et donc, en 2012, première prédiction, je serai, tu seras comme croyant, observé inévitablement par un monde incroyant. Fais attention à ton témoignage. Fais attention à ton témoignage. Deuxième prédiction, marche-tu ça? Oui. Cette année, je vais rencontrer des gens déraisonnables, des gens désagréables, des gens déplaisants, des gens au caractère difficile. Regardez le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Puis là, évidemment, le texte nous parle des relations employé-employeur, qu'on connaît tous. Quand on est employé, des employeurs pas faciles, déplaisants. À l'inverse, si vous êtes employeur, sûrement des employés déplaisants, pas faciles. Mais au-delà de ce cadre de travail, dans notre vie au quotidien, on en rencontre des gens déplaisants, désagréables, déraisonnables. La version Darby parle même de maîtres fâcheux. Et c'est intéressant parce que le mot grec pour fâcheux est le mot scolios, d'où le mot scoliose pour parler d'une déformation de la colonne vertébrale. Et donc, quand on parle de gens au caractère difficile, de gens au caractère fâcheux, c'est aussi des tordus, aussi des malhonnêtes, non scrupuleux. Et on risque d'en rencontrer en 2012 encore des gens comme ça dans notre vie quotidienne. Puis je suis convaincu que tout le monde ici connaît des gens comme ça, désagréables, déplaisants. Regardez-moi pas comme ça, je suis pas bon. Mais on en connaît tous dans notre quotidien. Et donc, ne sois pas surpris en 2012 de rencontrer des gens comme ça. Des gens désagréables, malhonnêtes, tordus. Je vais en rencontrer en 2012. Troisième prédiction. Je vais endurer des traitements injustes en 2012. Je vais endurer des traitements injustes en 2012. Regardez le verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Regardez le verset 19. Quand on souffre comment? Injustement. C'est intéressant, le texte ne dit pas si tu souffres injustement, comme si ça arriverait peut-être pas. Non, non. Ça va arriver, mais ça, on ne sait pas quand. Quand on souffre injustement, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Je trouve que le mot-clé dedans, dans ce verset-là, c'est le mot « quand », il n'y a pas de « si » là-dedans. Puis, ça va arriver au moment où tu t'y attends le moins des situations injustes. Puis, ça va venir souvent d'une source que tu n'auras jamais soupçonnée. Mais ça va venir. Et peu d'épreuves sont plus difficiles à accepter que des souffrances qui ne sont pas justes. Parfois, on mérite certains traitements, et on en reparlera tantôt au verset 20, mais quand on n'en mérite pas, on a tendance à quoi? Supposons que je suis traité injustement, je vis une injustice dans ma vie. C'est quoi ma tendance humaine, naturelle, charnelle? C'est de me revenger, d'user de représailles. Puis là, on nourrit l'amertume. Vous savez, sur des plaques automobiles, on marque toutes sortes d'affaires. J'aime ma femme, on roule un peu, toutes sortes d'affaires. Hein? Mais... quelqu'un a lu ceci sur une plaque automobile, c'était écrit « Je ne me forge pas, je me venge. » T'es mieux d'être smart avec ce gars-là. « Je ne me forge pas, je me venge. » T'es mieux de ne pas rentrer dedans, comme on dit. Puis on regarde ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens depuis des années. C'est une politique de représailles. Il y en a une qui lâche une bombe, l'autre qui riposte des roquettes. Puis c'est une loi non écrite de représailles, dans le fond, hein. Mais ce n'est pas simplement un problème entre deux peuples, c'est le problème de l'homme pécheur de vouloir, lorsqu'on subit une injustice, lorsqu'on est traité injustement, c'est la réaction quasiment naturelle de vouloir le remettre à l'autre. Et là, on nourrit de l'amertume, on nourrit de la vengeance même. Faisons attention. Peut-être que cette année, vous débutez cette nouvelle année, je ne vous connais pas personnellement, mais Seigneur, c'est ce que vous avez vécu en 2011 ou dans les dernières années, mais peut-être vous commencez la nouvelle année, mais avec ces vieilles blessures-là d'amertume, des choses qui vous ont fait mal en 2011, puis là, vous commencez l'année avec ça. Puis, c'est pas guéri, puis même peut-être des gens que vous évitez de croiser tellement que l'amertume est là. Parfois, c'est dans l'Église, ça. Faisons attention. Relisons le verset 19. Car c'est une grâce de supporter ça, des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Vous savez, quand Dieu est dans le décor, c'est là que tout change. Mais si on tasse Dieu du décor, c'est là que la chair prend le dessus et ça va mal. Et dans nos vies personnelles, dans nos vies d'Église. Si lorsque j'analyse une situation d'injustice même, puis que je tasse Dieu de l'équation, c'est sûr que ça va mal virer. Là. Mais par motif de conscience envers Dieu, acceptons de souffrir et de subir, mais aussi de supporter les afflictions quand on souffre injustement. Puis en 2012, prédiction, on va subir d'autres situations d'injustice. D'autres blessures, d'autres déceptions, on va en subir, on va en vivre. Faisons attention à comment on va réagir. Autre prédiction, quand on regarde le numéro 2 et 3, c'est clair que le numéro 4, c'est très logique. J'aurai besoin en 2012 d'une patience inhabituelle. Non seulement cette année seras-tu observé par un monde inconverti, non seulement vas-tu rencontrer des gens déraisonnables, désagréables, et devras-tu endurer des traitements injustes, mais tu auras et j'aurai besoin d'une patience inhabituelle. Et c'est ce qui est sous-entendu dans le verset 20. Regardez. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Darby dira, c'est digne de louange devant Dieu, ça, que de supporter les afflictions injustes. C'est digne de louange, parce que c'est fort, ça. J'aurai besoin d'une patience inhabituelle en 2012. Tu sais, quelqu'un qui vole quelque chose, qui fait le mal, qui se fait prendre, qui va en prison, qui passe X temps en prison, puis qui sort, on ne l'applaudira pas, il a été patient. Non, tu as eu ce que tu méritais. Mais vivre des choses injustement, puis de l'endurer, puis de le supporter, ça prend une patience inhabituelle. Ça prend la grâce de Dieu, ça. Supporter a le sens de tenir bon sous le poids de quelque chose, c'est l'idée d'endurer. Et là, vous allez dire, il me semble que j'aurais besoin d'un exemple pour m'encourager. Avec les témoignages que je vous ai dit ce soir, mes histoires, c'est pour moi l'exemple, hein, vous avez vu. Mais regardez, on a le verset 21 qui nous donne l'exemple. Et ça, c'est fantastique. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous savez, là, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ça va tout bien aller si tu viens au Seigneur. Ils n'ont pas lu le verset 21. Quand tu viens au Seigneur, ton appel, c'est un appel à souffrir. Puis souvent, à souffrir injustement. À souffrir pour ta foi. À souffrir parce que, justement, tu as un bon témoignage qui tranche avec le monde. À recevoir les moqueries des autres. C'est ça la promesse de Dieu quand tu viens au Seigneur. C'est pas de dire ça va tout bien aller, tu vas être en bonne santé tout le temps, puis la richesse, puis let's go, puis. Non. On est appelé, c'est à cela que vous avez été appelé, c'est intéressant. Verset 21. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert. Regardez deux petits mots importants. Il a souffert pour vous. Réalisons ce soir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, est venu mourir sur cette, est venu vivre sur cette terre, est venu souffrir pour moi, pour toi. Et regardez le reste du verset 21. Vous laissant un exemple, comment réagir par rapport à ce qu'on va vivre en 2012? Afin que vous suiviez ses traces. L'exemple s'appelle la croix, l'exemple s'appelle Christ. Sur cette croix-là, il y a 2000 ans, on a cloué le seul individu à n'avoir jamais vécu sur cette planète sans la moindre parcelle de péché. On l'a tué. Y a-tu pire injustice que ça? Il était sans tâche. Il n'y avait jamais aucun motif injuste dans la vie du Seigneur. Aucune parole déplacée. Je méditais là-dessus, tu sais, le Seigneur a vécu... comme charpentier, un certain bon bout de temps. Fils de charpentier, mais charpentier. Puis j'imagine qu'il a peut-être eu affaire à des clients dans sa shop. Il y a-tu du monde, des fois, désagréable, plus désagréable qu'un client. Mais je suis convaincu. On sait très bien, le Seigneur est parfait. Le Seigneur a toujours bien réagi face au monde désagréable. Il a vécu, de toute façon, avec un paquet de personnes désagréables autour de lui. On a toujours essayé de le piéger. Mais jamais, jamais, jamais une parcelle de péché. Il est sans péché. Il est vraiment notre exemple en ce début d'année 2012. Regardez la suite du verset 22. Lui, et là, c'est intéressant, c'est Pierre qui parle. Moi, j'aime bien penser que c'est l'apôtre Pierre qui est en train de nous dire ça. S'il y a quelqu'un qui avait le nez collé sur le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'apôtre Pierre. S'il y a quelqu'un qui était capable de témoigner de sa perfection, c'était lui. S'il y avait eu une fraude dans la bouche du Seigneur, Pierre l'aurait vu, l'aurait entendu. S'il y aurait eu une mauvaise réaction de la part du Seigneur, Pierre l'aurait vu. Il était aux premières loges de la vie du Seigneur, dans son intimité. Puis parfois, en public, on paraît tout bien. À soir, on était pas mal tout beau. J'ai l'ouvrage à faire, mais... Tu sais, on paraît tout bien par rapport aux autres. On a l'air des bons chrétiens. Mais c'est dans l'intimité que ça se passe, que les tests sont là. Mais le Seigneur Jésus, lui, dans l'intimité, avec ses apôtres, les apôtres ont pu voir comment il a réagi dans le jardin de Gethsémané. Ils ont pu voir comment ils ont réagi sur la croix du calvaire. La peau de Jean était au pied de la croix. Il l'a vu, Jean. Mais Pierre, il l'a vu le Seigneur réagir de toutes les façons, dans toutes les situations. Puis jamais, jamais, il a vu une faute dans lui. Et c'est intéressant que ce soit lui qui nous dit, au verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. » Si ça n'avait pas été le cas, Pierre n'aurait pas pu marquer ça. Regardez ce qu'il va dire au verset 23. « Lui qui injurié... » Tu sais, Seigneur, il s'est-tu fait insulter, pensez-vous? Puis le pire moment de ces insultes, c'est sa croix. C'est comment d'injures qu'on lui a lancé, tiens. Hein? Si t'es le fils de Dieu, puis si ton père t'aime, puis tata, puis si t'es prêt à sauver toi-même, puis... Injurié. Puis tu sais, ben, Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mon Créateur, ton Créateur, s'est fait cracher dessus. Es-tu plus insultant que se fait cracher dessus? Je pense que ça va plus mal qu'un coup de poing, ça. Se fait cracher dessus. On a craché sur lui. On a craché sur le Seigneur. Mais regardez, verset 23, lui qui est injurié, c'est à quoi? Y avait-tu une réaction? Non, il ne rendait point d'injure. Écoutez, là, cloué à la croix face à ce monde-là, me semble que ma réaction charnelle serait de dire il n'y a rien à faire avec cette gang-là. Non. C'est quoi qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Wow. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Maltraité ne faisait point de menace. Vous savez, là, quelqu'un qui a du pouvoir, il a aussi le pouvoir de menacer. Puis Jésus-Christ était tout puissant. C'est le tout puissant. Mais il n'a jamais réagi en menaçant. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Puis ça, c'est une leçon pour nous ce soir, comment réagir en 2012 face à ces situations qui nous attendent en 2012, ces traitements injustes, ces rencontres avec des gens désagréables. Comment réagir? Regardez à la fin du verset 23. Qu'est-ce que notre exemple faisait? Le Seigneur Jésus-Christ, il s'en remettait à celui qui juge toujours justement. Le Fils de Dieu s'en remettait à son Père. C'est notre exemple. Puis nous, on veut régler ça nous autres-mêmes. Puis on nourrit de l'amertume, puis on veut se revenger, puis on réagit mal, puis on a un mauvais témoignage. Non. Seigneur s'en remettait à celui qui juge. Hey, Seigneur, on a vécu là, des vagues, on a vécu des difficultés, des injures, des mauvais traitements. Voyons donc, c'est notre exemple. Le Fils de Dieu parfait ne méritait rien de ce qui avait été dit et fait contre lui. Et son secret, c'est qu'il s'en remettait à son Père. Puis personne d'autre n'aura été traité aussi injustement que Jésus-Christ et personne ne le sera. Peut-être ce soir, tu dis, ouais, mais là, tu ne connais pas ma situation. Là. Écoute bien, là. Regarde Christ. Tu ne peux pas te comparer à ça. Écoutez, lui, il est parfait et donc tout mauvais traitement contre lui, c'était de l'injustice à 100%. Quand tu dis qu'il n'avait même plus la forme d'un homme tellement qu'on l'avait magané. Tellement qu'on l'avait frappé dessus, qu'on l'avait massacré, son visage était défiguré, nous disait. Il est rendu semblable à un caillou. Puis il avait beau être parfait, sans tache, irréprochable, on l'a quand même battu, on l'a quand même craché dessus, on l'a quand même cloué sur une croix. Un procès injuste, écoutez, y a-t-il un procès plus injuste? Tu sais, il me semble qu'être étudiant en droit à l'université, là, J'aimerais ça surprendre mon prof de droit en faisant une thèse sur le procès le plus injuste de l'histoire de l'humanité, celui de Jésus-Christ. Aucune accusation qui se tenait. Ça, tout est des fausses accusations. Pilate, il voyait bien qu'il n'avait rien fait. Il voyait bien qu'il avait la perfection sur deux pattes devant lui. Voyons donc. Mais il fallait qu'il meure pour me sauver. C'est assez incroyable le plan de Dieu, quand même. Dieu a permis autant d'injustices sur son fils pour qu'on soit sauvé. Quel amour. Quel amour. Puis comment la croix, elle aurait pu faire appel à des milliers d'anges pour exterminer le monde. On arrête le show. On arrête tout ça. C'est fini. Pas question de mourir pour ce gang-là. Puis même pas besoin de recourir à des milliers d'anges. Une seule parole aurait pu exterminer le monde ce jour-là. Il n'a pas fait. Le silence de l'agneau, hein, un beau chant de Jules Despins qu'il avait fait dans le temps. Le silence de l'agneau à la croix du calvaire. C'est notre exemple comment réagir face à l'adversité, face au traitement injuste. Puis confronté à la perfection de Christ, Pierre aura été confronté à ses faiblesses. Tu sais, quand Pierre écrit ça, là, lui, il n'a pas commis de péché, mais lui, il sait bien qu'il l'a commis. Lui, il n'y avait rien dans sa bouche qu'on pouvait l'accuser de fraude. Mais gars, moi, je l'ai renié trois fois le Seigneur avec ma bouche. Tu sais, quand on... Puis la beauté d'un milieu évangélique qui célèbre le repas du Seigneur semaine après semaine, j'espère que ce n'est pas une tradition, puis ce n'est pas une routine, mais qu'on vient avec le cœur allumé au Seigneur lorsqu'on vient adorer le Seigneur le dimanche matin. La beauté du repas du Seigneur, c'est qu'on est confronté dimanche après dimanche à la perfection de Christ, puis dimanche après dimanche à nos imperfections de Dieu. Ça nous garde humbles, ça nous garde à notre place. Parce que lorsqu'on se compare à Christ, puis on regarde nous autres, puis Pierre, là, il écrivait ça, puis il savait très... Tu sais, comment Pierre a réagi dans le jardin de Gethsémani? Il a sorti l'épée. Le Seigneur, lui, il se laissait faire, il se laissait attacher. Quelle différence de réaction. Pierre, lui, voulait se battre. C'est ça la différence. Et on est confronté à nos faiblesses lorsqu'on est confronté à la perfection de Christ. Verset 24 nous rappelle que c'est lui qui a porté lui-même, Jésus-Christ, nos péchés. Hey, seulement mes péchés à moi, il avait les épaules pesantes. Mais tes péchés, les péchés de tout le monde. Il a lui-même porté nos péchés sur son corps, sur le bois. Et le but, c'est afin que mort au péché, c'est pour ça que lorsqu'on devient chrétien, il y a cette sanctification qui s'installe, parce qu'on est mort au péché. Nous vivions pour la justice. Il est venu mourir pour que tu vives et que je vive. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Quelle belle parole. C'est notre sauveur. Christ est notre exemple pour savoir comment maintenir un bon témoignage devant un monde inconverti. C'est notre exemple. Regardez dans les évangiles toutes ces réactions tout le temps. Parfait. Comment de fois qu'on a essayé de le piéger, tu sais, mais j'aurais su être tanné à la place du Seigneur. Surtout qu'il connaissait les cœurs, il voyait l'hypocrisie de ces chefs religieux-là. Comment ça devait être? À un moment donné, il me semble que tu as le goût de dire, c'est assez, non? On a essayé de l'enfarger à tout bout de champ. Puis on va vivre des situations difficiles. Mais il est notre exemple pour savoir comment maintenir un bon témoignage devant un monde inconverti qui nous observe. Il était observé, le Seigneur, il était scruté. Qu'est-ce qu'il va répondre hein, au fait qu'on doit-tu payer les impôts à César? Qu'est-ce qu'il va répondre? Le Seigneur est observé plus que quiconque. Il est notre exemple pour savoir comment faire pour ne pas être pris en défaut dans nos actions, dans nos réactions, dans nos paroles. Il est notre exemple pour savoir comment réagir face à ces gens déraisonnables, face au traitement injuste qui nous attend en 2012. Il est vraiment notre exemple de patience, parce qu'écoutez, là, c'est notre exemple de patience par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en 2012, je serai observé par un monde inconverti, je rencontrerai des gens déraisonnables, je vais endurer des traitements injustes, j'aurai besoin d'une patience inhabituelle en 2012. J'aime bien mon dernier point. J'aurai une protection sans faille. Merci Seigneur. Regardez le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. C'est ça la situation d'un homme ou d'une femme sans Dieu. Avant de connaître le Seigneur, on vivait dans nos vies, on se levait le matin, on allait à l'école, on travaillait, on foirait pas, mais en tout cas. Mais on vivait des vies vaines. On était errants, on était des brebis errantes. C'est ça la situation de l'être humain sans Dieu. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, un beau mais dans la parole de Dieu, mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes retournés vers, regardez les deux expressions qui décrivent notre Sauveur, vers le berger et le gardien de vos âmes, le surveilleur de vos âmes. Pierre prend deux illustrations sur lesquelles il vaut la peine de méditer. Le premier mot, c'est le mot berger. Le deuxième mot, c'est le mot gardien ou surveillant. Si on faisait un sondage ce soir, c'est quoi le plus beau psaume, mon psaume préféré? Probablement que le psaume 23, ça sortirait. Qui commence comment? L'Éternel est quoi? Es-tu ton berger vraiment ce soir? J'espère qu'il est ton berger. Sinon, tu es sans berger. Tu es errant. Viens au Seigneur avant que ce soit trop tard. Mais l'Éternel est mon berger, et la suite, c'est « Je ne manquerai ». Alors, si l'Éternel est ton berger, tu vas-tu manquer de quelque chose en 2012? Non. Tu manqueras de rien. Quelle promesse! Ésaïe dira « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. » Quelle image incroyable! Il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Une promesse de Dieu ce soir pour 2012, on sera nourri tout au long de l'année parce qu'on fait partie de son troupeau. C'est un terme qui fait référence à une protection incessante, une vigilance sans cesse. Le texte dira, celui qui veille sur Israël ne dort pas. Et même pendant ton sommeil en 2012, il va veiller sur toi. Puis même dans ces moments d'égarement spirituel que tu vas peut-être vivre pour différentes raisons en 2012, le Seigneur va veiller sur toi. Puis même si en 2012, à un moment donné, il arrive un moment où tu sens que tu es au bout du rouleau, il va veiller sur toi. En tout temps. Il sera là pour toi. Vous savez, le Père Noël, c'est beau dans les fêtes. Mais rendu au mois de janvier, il n'est plus à gérer. Il est allé aux rivières, il pleut. Les cartes de crédit rentrent, mais lui, il pleut. Le Seigneur est toujours là. Le Seigneur va être là pour toi en 2012. Il est ton berger et tu es la brebis de son troupeau. Et l'autre mot intéressant, c'est le mot gardien, surveillant. Surveiller me fait penser à veiller sur. Hein? Veiller sur nous autres. Il veille sur nous autres. Il veille sur toi. Il va veiller sur moi. Puis même si ce soir dans ta vie, tu es célibataire, tu es seul ou tu as une situation où tu vis seul, tu n'es jamais seul avec le Seigneur. À tout moment, tu peux dire « Seigneur », puis il est là, même en plein milieu de la nuit, puis le Seigneur, il dit « Je ne t'ai jamais quitté », puis « Dis-moi ce qu'il y a sur ton cœur, puis confie-toi en moi, puis j'aurai sur toi une surveillance, une protection sans faille en 2012. » Alors, c'est une liste qui est à considérer tout au long de l'année, la liste qu'on a devant nous ce soir. Le fait que je serai observé par un monde incroyant, le fait que je vais rencontrer des gens déraisonnables, je vais endurer des traitements injustes, j'aurai besoin d'une patience inhabituelle, mais j'aurai une protection sans faille. Puis quand l'un ou l'autre des éléments de cette liste va nous arriver, surtout les points 2 et 3, ne sois pas surpris que ça t'arrive. Regardez, Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, on peut tourner une page ou deux, 1 Pierre 4:12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Hein? » Souvent, quand il nous arrive de quoi, là, nous autres, il me semble que c'est plus grave que les autres. Mais il dit, « Soyez pas surpris, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, ça fait partie de la vie. Ça. Comme si vous aviez quelque chose d'extraordinaire. » Sois pas surpris en 2012 si tu rencontres des gens désagréables ou si tu vis des moments et des situations injustes. Sois pas surpris de ça. C'est dans l'épreuve que d'ailleurs qu'on est perfectionné. C'est dans l'épreuve qu'on est transformé, que nous apprenons. L'important, c'est de se confier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Pas en nous-mêmes, pas en notre sécurité d'emploi, pas en notre sécurité financière, en Jésus-Christ seul. C'est lui le rocher, le reste, c'est du sort mouvant, je veux dire. Puis ça, personne ici ce soir ne sait vraiment ce que l'avenir lui réserve. Personne ici ce soir ne sait vraiment ce que l'année 2012 lui réserve. 2012 lui réserve. Puis vous savez quoi, c'est pas important de connaître l'avenir. Ce qui est important, c'est de connaître celui qui connaît l'avenir. C'est sûr qu'assurant, ça. Ben, lui, il connaît ce qui va m'arriver en 2012, il sait déjà. Lui. Puis vous savez quoi, il est en contrôle de tout ce qui va se passer. Puis il sait que c'est pour mon bien tout ce qui va se passer. Parce qu'il y a un plan de me rendre semblable à Christ. C'est pas extraordinaire, ça. C'est la plus belle promesse. Le Seigneur connaît l'avenir. Le Seigneur sait ce qui va m'arriver. Moi, je me laisse aller là-dedans. Mon rôle, c'est de me confier en lui, lire sa parole, être fidèle aux réunions pour recevoir l'enseignement, venir l'adorer semaine après semaine, être bouillant pour lui, témoigner, avoir un bon témoignage pour lui, rentrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Souvent, on cite Éphésiens 2, 8, 9, mais on oublie 10. Il y a des œuvres préparées d'avance. Vous savez, la section des Écritures qu'on a vue ce soir, ça traite vraiment d'un sujet pratique et réel qui risque de nous arriver. Et ce sont ces traitements injustes, ces injustices que nous vivons. J'ai commencé avec Charles Swindoll, je vais finir avec lui. Charles Swindoll a dit ceci, il dit, on a pas mal tous quelque chose en commun. Nous avons un jour ou l'autre été blessés par quelqu'un. On a pas mal tous quelque chose en commun. Nous avons un jour ou l'autre été blessés par quelqu'un. La blessure peut avoir été physique ou émotionnelle. Peut-être victime d'abus sexuels, de négligence, d'abandon. Peut-être on a été traité injustement par un supérieur au travail, justement. Peut-être on a été trompé par un soi-disant pasteur, un soi-disant homme de Dieu, puis j'ai été blessé par ça. Mais ma prière ce soir, en ce début d'année, c'est que ce passage nous aide à passer au travers de ces traitements injustes. Parce qu'on risque d'en vivre d'autres. En 2012, de ces blessures. Puis si ce n'est pas déjà fait, il faudrait apprendre en 2012 à laisser sur l'autel nos rancunes, nos amertumes par rapport aux blessures passées et actuelles. Il n'y a rien de pire dans la vie chrétienne que de nourrir l'amertume. Règle tes affaires. Demande pardon ou accepte le pardon. Règle tes affaires. Il n'y a rien de pire dans une église que d'avoir des chrétiens qui nourrissent l'amertume. Si tu veux détruire une église, permets à l'amertume de grandir dans l'église. Puis les situations de ne pas se régler entre chrétiens. Le pardon est nécessaire, mes frères et mes sœurs. Si on veut vivre une année 2012 qui ne sera pas misérable. Mais faisons attention, parce qu'on a, comme je le disais, et comme Charles Swindoll l'a dit plus tôt, on a tous été blessés par des situations, par du monde, par quelqu'un. Ça peut être même un chrétien, un frère, une sœur. Mais qu'en 2012, nous puissions commencer avec cette résolution, Seigneur, je veux régler mes affaires. Je veux enlever toute amertume dans ma vie. Je sais que ça me nuit à moi, puis ça nuit à mon église. Alors que le Seigneur nous aide avec ces points-là, mais surtout à nous rappeler qu'il est notre rocher, qu'il est notre bon berger, qu'il est le gardien de nos âmes. Et que, quelles que soient les situations qui nous attendent en 2012, il est là, tout le temps là. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, encore une fois, éternelle. Puis merci pour ce texte si touchant où on voit la description par Pierre de ce que tu as subi. Les injures, les mauvais traitements, de voir ta réaction parfaite. Tu n'as point rendu d'injures, tu n'as point fait de menaces, toi qui avais tout pouvoir. Mais tu t'en es remis justement et simplement au juste juge qui est ton Père. Seigneur, on a tous vécu des situations dans nos vies injustes, difficiles, blessées par des personnes, peut-être même des chrétiens. Qu'on ne puisse pas permettre à l'amertume de grandir dans nos cœurs en 2012. Et qu'on puisse, Seigneur, pardonner, qu'on puisse repartir à zéro dans différentes situations. Et Seigneur, tu connais déjà ce qui nous attend pour chacun d'entre nous en 2012, les bons jours et les mauvais jours. Mais on sait que tu es en contrôle de tout parfaitement, puis qu'il n'y aura rien au hasard, comme d'habitude. Et que le but ultime, c'est de nous transformer en image de ce Fils, afin qu'on lui ressemble, justement, dans nos actions, nos réactions, nos paroles, nos pensées. Fait qu'en 2012, je sois un bon témoignage. Et peut-être que ça peut demander des changements dans ma vie, des changements de pratique, des choses que je fais actuellement qui ressemblent tellement aux païens qu'on a de la misère à savoir que je suis chrétien. Seigneur, fais que nous Soyons différents. Vous êtes la lumière du monde. C'est toi qui le dis. Fait qu'on brille en 2012. Fait que ton Église au Cap brille. Et Seigneur, merci pour ces exhortations en début d'année. Une exhortation qui est adressée à des croyants dispersés dans le monde par leur foi, par la persécution. Mais Seigneur, une exhortation valable pour nous aujourd'hui. Et on te demande de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen.